Il était une fois.
Il était une fois.
Il était une fois.
Il était une fois.
Retrouvons-nous au pied de cette montagne de granit, devenue le Mont Saint-Michel. Un roi a tenté la mort pour connaître son destin. Il a osé poser le pied au milieu des scènes et a ri de la mort promise. Mais Kéridouane, la déesse de la nuit, le protège. La plus jeune des scènes, surprise par l'amour, s'est offerte à lui au moment du sacrifice. Elle s'abandonna de tout son être. De sa couronne défaite, il la vit choir jusqu'au fond de l'abîme, d'où elle rebondissait avec des étonnements, des joies et des sursauts. Ah, les longues étreintes, les baisers, les murmures entrecoupés par le battement rythmique de la vague. Souvent, elle l'interrompait au milieu de ses plus fous transports. « Tais-toi, disait-elle en riant, et laisse-moi écouter. Je sais ce que murmure la pointe des arbres, et quels sont les divins souffles qui parlent dans les troncs. Je veux te dire ce que m'ont dit de toi les génies pendant que je dormais dans la forêt, sous les bouleaux, où gémissent les harpes suspendues dans les branches. » Et elle disposait par terre toutes sortes de rameaux d'arbres noués avec des feuilles de chêne. Elle formait ainsi les runes et les lettres magiques. Et d'après ces signes, amoureusement entrelacés, elle prédisait aux chefs les jours, les batailles, la destinée inévitable, le trépas heureux et prompt ou la dure vieillesse. La nuit, avec de grands frissons, elle s'échappait de ses bras et courait au sommet de l'îlot, inondé de la clarté lunaire. Là, avec des gestes austères et chastes, elle invoquait pour lui les grands ancêtres. Puis, excitée par l'odeur de la verveine froissée, elle entrait en délire. Alors, le Gaulois, accroupi sur la roche, sentait avec épouvante et stupeur que le monde des ombres lui disputait déjà cette femme, qu'il pressait tout à l'heure dans ses bras chauds et puissants. Tandis que le disque lunaire semblait descendre sur l'île et qu'une brume l'enveloppait, il comprenait au mouvement de la druidesse, à ses cris d'effroi, à ses interjections suppliantes, qu'elle s'entretenait avec des fantômes invisibles pour lui, mais que les yeux grands ouverts de la scène voyaient glisser dans la brume. Ah, Kéridouane se vengeait, lui reprenait sa proie. Fou de désir, d'inquiétude et de compassion, il arrachait alors la prophétesse à son délire et l'entraînait dans la grotte profonde. Et là, sur le lit de feuilles de chêne frais et de bouleaux parfumés, après les larmes délicieuses lentement versées et longuement bues, elle l'étonnait bien davantage en lui confiant les grands secrets de la sagesse des druides. Elle devenait plus belle et presque terrible, ses yeux le transperçaient comme deux poignards. Elle lui révéla les trois cercles de l'existence. Anophem, l'abîme ténébreux douceur toute vie. Kil ik Abred, où les âmes émigrent de corps en corps. Kil ik Gwenfid, le ciel radieux où règne le bonheur, où l'âme recouvre sa mémoire primordiale, où elle retrouve son Awen, son génie primitif. Alors, la druidesse disait de ces choses étranges et inquiétantes, qui 8 siècles plus tard pourtant tombaient encore dans les lèvres du divin Taliesin. La mort est le milieu d'une longue vie. Gwyd, le grand voyant, m'a poussé hors de la nuit primitive avec la pointe d'un bouleau. J'ai été marqué du signe d'une étoile par le sage des sages dans le monde primitif où j'ai reçu l'existence. Goutte d'eau, j'ai joué dans la nuit. Feu, j'ai dormi dans l'aurore. J'ai été prime vert dans la prairie, serpent tacheté de la montagne, oiseau de la forêt. J'ai transmigré sur la terre avant de devenir voyante. J'ai transmigré, j'ai dormi dans 100 îles, dans 100 villes j'ai demeuré. Écoute les prophéties, ce qui doit être sera. Et la troisième nuit, elle devenait sérieuse, impassible, visionnaire sous l'étreinte. Son âme, déjà, semblait absente. À la première lueur de l'aube, la druidesse elle-même pressait le départ du guerrier. Gravement, elle attacha au cou de son amant le collier de coquilles consacré. Puis, elle alluma une torche de résine et la fixa à la barque longue et mince qui devait emporter au loin le héros. Cette torche était l'âme de la druidesse malheureuse, qui devait, après les temps révolus, guider par-delà l'océan le chef qu'elle avait tant aimé. Le Gaulois regarda son amour, redevenue la prophétesse inabordable. La mort solennelle dans les yeux, elle conduisit, comme dans un rêve, son époux dans la barque. Et puis, poussant un cri terrible, elle la lança sur les flots. Le Gaulois, emporté par l'océan, fut poursuivi par un chant doux et sauvage qui venait du rivage de l'île. « Prends garde, » disait ce chant, « tu m'as possédée vivante. Morte, je te posséderai et je ne te quitterai plus. Je serai dans l'orage, je serai dans la brise. Je vibrerai dans le rayon de lune, je palpiterai dans les ténèbres. Fils de Baléol, par Kéridouane la Grande, je prends possession de toi. Souviens-toi des prophéties. Tu me verras dans la barque du départ. Ce qui doit être sera. » Et la druidesse, assise sur son rocher, ne voyait plus qu'une torche dansant sur les flots, image de sa propre âme qui fuyait hors d'elle-même. Quand le flambeau disparut, elle but la coupe, remplie du suc empoisonné d'if mêlé de belladone. Et aussitôt un sommeil lourd engourdit ses membres, et d'épaisses ténèbres recouvrèrent pour toujours les yeux de la voyante. Lorsqu'au matin, les scènes accouraient sur leur barque, elles ne trouvèrent plus qu'un cadavre, déjà glacé par la torpeur de la mort et la rosée du matin. C'est ainsi que s'acheva l'histoire d'amour entre la jeune scène et le fier Gaulois. Aujourd'hui, l'îlot où s'est déroulée cette histoire se nomme Tombellen. C'est un îlot aride, élevé à 40 mètres au-dessus de la grève. Il a pour base des rochers abrupts, dont les crêtes percent au sommet le sol sablonneux. On voit quelques pans de murailles en ruine et une grotte naturelle au midi. Quand les chrétiens baptisèrent le Tombellen du Mont Saint-Michel, la pauvre île délaissée hérita de ce nom, Tombellen. Est-ce le vague souvenir des scènes étranges et sauvages des temps druidiques, transmis et travesti d'âge en âge? Est-ce une fatalité attachée à ce lieu? Est-ce le simple effet de sa mélancolie naturelle? Mais toujours de tristes légendes y sont rapportées. Les trouvères du Moyen-Âge prétendirent que la nièce du roi de Bretagne, Hoël, avait été enfermée là par un géant, y était morte dans de grandes douleurs. Ils disaient qu'on entendait autour de l'îlot grands pleurs, grands soupirs et grands cris. Plus tard, les paysans de la côte racontèrent qu'une jeune fille du nom d'Hélène, n'ayant pu suivre son amant qui allait avec le duc Guillaume conquérir l'Angleterre, se laissa trépasser là quand elle eut perdu de vue le vaisseau qui emportait sa vie. Mais d'où viennent ces histoires bizarres, ces traditions, répétant toujours un fait analogue? D'où vient aussi cet usage singulier, qui subsistait encore parmi les pêcheurs normands il y a à peine une trentaine d'années? Lorsqu'on lançait une barque sur la mer, on allumait une chandelle à la poupe, et les pêcheurs chantaient « La chandelle de Dieu est allumée ». Je crois qu'elle brille encore cette chandelle, en nous tous, inconsciemment, comme un symbole des âmes tordues par le vent sur la barque du destin, comme un dernier souvenir de la druidesse mourante et oubliée. J'espère que cette histoire vous a plu. La semaine prochaine, nous irons en Bretagne, découvrir celle qui épousa l'océan. À bientôt, sur Il était une fois.